Vous écoutez RTL.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard.
Bonjour à tous, bonjour Eric.
Oh bonjour Jade, bonjour à tous.
Ah, quelques heures de passé en 2018, on refait l'année télé 2017 sur RTL.
Vous êtes chic d'ailleurs Jade.
Ah bah quand même.
C'est quoi votre tenue pour ce soir pour le réveillon?
C'est noir. Toujours.
Vous êtes mise sur votre 31?
Oui, avec des paillettes.
Ouais. Vous savez qu'on peut faire encore mieux que se mettre sur son 31. Ce que j'avais appris dans Les Anges d'énergie 12.
Hein. Ah bah franchement, j'ai sorti la grande robe des Oscars. Ce soir, je me suis mise sur mon 36.
Et ça, c'est quelque chose de se mettre sur son 36. Hein. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Avec une affiche de fête. Patrick Timsit, Michael Youn.
Et pour commencer, Alessandra Sublé qui était venue nous parler télé, bien sûr, mais pas que.
C'est son choix.
Vous allez lui faire peur, là. Harry. Ce sont les choix d'Alessandra Sublé. Elle va nous dire pourquoi, par exemple. En matière de James Bond, vous préférez Daniel Craig ou Pierce Brosnan?
Voyez, Pierce Brosnan.
Vous avez dîné avec les deux, je crois.
Bah, j'ai dîné avec Pierce.
Et il y a eu un petit problème.
Je l'appelle Pierce maintenant.
Oui, c'est ça.
La bourde 000 cette fois-ci.
La bourde sublette énorme.
Racontez-nous.
En fait, mon mari venait de finir un film avec lui, parce qu'il produit des films, et il me dit, bon, allez, c'est genre, pour une fois, je te sors, mais tu fais attention, quoi.
Tu dis rien.
Donc, on l'emmène dîner à la Miloui à Paris, qui est une table assez réputée pour ses bons plats roboratifs. Et donc, du coup, il commence à discuter. Moi, je lui pose des questions, puis on va de plus en plus dans le perso. Et puis, à un moment donné, il me dit, en anglais, il me dit, écoute, moi, en fait, j'ai perdu ma femme. Mais par contre, j'ai retrouvé quelqu'un, donc c'est génial l'amour, parce que tu vois, c'est un cycle, etc. Et moi, je comprends en fait quand il me dit que sa femme passed away, je comprends qu'en fait, elle s'est cassée.
Ah.
Et je lui dis, non mais bon, tant pis pour elle, quoi. Tant mieux si vous en avez retrouvé une autre, quoi.
Oh la boulette, oh la sublette.
Et là, il a un moment de blanc, et je sens mon mari à côté qui me dit, non mais mon amour, tu n'as pas compris. Et il n'empêche que le lendemain sur le tournage, il a dit à mon mari, il a dit, elle est super, ta femme, elle est très spontanée, mais elle est super.
Ce serait peut-être James Bond Girl un jour, qui sait, Alessandra.
Oui,
autre ou, pour réussir à la télé, vous diriez qu'il vaut mieux être un homme ou une femme?
Oh, les deux, mon capitaine.
Ouais.
Vous
ne
m'entendrez pas avoir de discours féministe là-dessus, parce que si une femme a envie de faire sa place, qu'elle se la fasse. C'est vrai que c'est
plus
pas
compliqué
simple.
Ou pas que pour un homme.
C'est plus compliqué parce que finalement, la majorité des animateurs étaient jusque-là masculins. Mais ce que fait Delphine Ernotte sur le service public montre bien qu'on peut mettre des femmes à n'importe quel poste, que ce soit au journalisme ou au divertissement, et ça marche tout autant. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter un peu avec ce discours-là, je dis juste que les choses avancent et qu'il faut aussi regarder le côté positif de temps en temps.
Autre choix.
Alors, vous préférez l'histoire ou la géo? Moi, c'est des questions importantes. C'est vrai que vous avez eu une frayeur à l'épreuve de géographie du bac.
Le Brésil.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait un pas sur le sujet, vous avez demandé à l'examinateur de vous faire une fleur, c'est ça?
Oui, en fait, j'étais au rattrapage et l'examinateur qui avait une bonne tête, je me suis dit, il va comprendre. Et en fait, je tombe sur le Brésil, puisque vous piochez des petits papiers, quoi, et c'était la géographie du Brésil. Et donc, il me demande de replacer un peu toutes les villes du Brésil. J'en place 2 sur 10 ou 2 sur 8. Et au bout d'un moment, je dis, bon, écoutez, on va être très clair, ça ne me sert à rien, la géographie du Brésil, dans la suite de ma vie. Si j'ai envie d'y aller un jour, j'irai, etc.
Vous lui avez demandé des points?
Ah, je lui ai dit, mettez-les-moi, il me manque 0,5 points.
Ah, mais vous avez fait la quête, quoi.
Non, mais, mais j'en ai placé 2. Je lui ai dit, ça vaut au moins un demi-point. Et il me les a mis.
Quant à la géographie, ça va mieux aujourd'hui?
Oui, un petit peu. Au Brésil, moins, mais...
Vous connaissez la ville de Troyes maintenant, Alessandra?
Ah oui, oui, pourquoi?
Alors, c'est un petit bug avec Raphaël Mesrahi.
Vous vous mettez dans la peau du Delatte, qui était apprenti journaliste de Trobe, dans l'Aube.
Vous avez dit Trobe?
La ville de Troves dans l'Aube.
En fait, attendez, faut que je vous explique. C'est que j'avais une super assistante fichiste, ce qu'on a beaucoup quand on prépare des quotidiennes.
Oui, mais qui était dyslexique.
Et qui était... Non, pas du tout. Et vraiment, c'était une bosseuse hors pair. Et il faut voir que certains jours, on faisait 2 émissions parce qu'on enregistrait les best-of de Noël. Et elle m'avait écrit T-R-O-V-E-S. Et comme une conne, j'ai lu Troves.
Oui.
Et même moi, en le disant, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes?
Qu'est-ce que c'est que
tu racontes?
C'est où, Troves?
Mais voilà, je l'ai mis à mon palmarès, il n'y a pas de problème, j'assume complètement.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard. On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard.
Jade, est-ce que vous avez déjà présenté une émission devant 80 000 personnes? À part ici, bien sûr.
À part ici, non.
Eh bien,
non,
Alessandra
tout.
Sublet, elle l'a fait.
Oui, je sais.
Devant la Tour Eiffel, en direct sur TF1. C'est l'un de ces grands moments de télé que l'on réécoute maintenant.
Le replay de l'invité.
Alors, c'est l'heure d'écouter les meilleurs souvenirs télé de notre invité, Alessandra Sublé. On va rester dans la thématique du jour puisque vous avez tout d'abord souhaité réécouter ce moment où la France s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2016.
Cette équipe, dans les moments importants, a émergé ce soir un talent extraordinaire, celui d'Antoine Griezmann.
On le disait, c'est pendant 7 euros que beaucoup de Français ont découvert Antoine Griezmann. Oui. Mais ce que l'on apprend à travers votre documentaire, c'est que ce n'est pas une réussite éclair, c'est le fruit d'une persévérance incroyable, Antoine Griezmann.
Énorme. Et une persévérance à un âge où moi, je ne pensais pas qu'on pouvait être si combatif. À 12 ans, même 11-12 ans déjà, il sait que c'est ça qu'il veut faire.
Alessandra, vous aussi, vous avez donné de votre personne pendant l'Euro 2016 avec cette grande émission en direct du Champ de Mars.
Ah ouais, c'était génial.
Ouais, c'était top. Ah ouais, hein, vous avez vraiment offert un show incroyable. Vous étiez mise en scène. C'était vraiment très réussi.
Et j'avais demandé aux copains de venir, à Denis Brognard, à Nico Saliagas, etc. On était plusieurs, c'était vraiment chouette.
Bon, le seul problème, c'est qu'évidemment, quand il y a autant de monde, bah, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Et parfois, bon, il y a eu quelques moments de dialogue de sourds, notamment avec ce jeune homme dans le public.
80 000 personnes ce soir ici qui ont envie de soutenir les Bleus, qui sont là évidemment pour cette équipe exceptionnelle. Ah. Alors, à ton avis, combien tu penses qu'il y aura demain pour France-Roumanie? Un score?
J'ai pas compris.
Mais évidemment qu'ils vont gagner, les Bleus, on est tous derrière.
Ah bah, Alessandra, elle est pas compliquée, elle fait les questions et les réponses.
En fait, quand ils nous demandent de descendre dans la foule comme ça, on n'a pas souvent les retours, donc on n'entend rien parce qu'on a des grosses oreillettes dans les oreilles. Et donc du coup c'est impossible.
80 000 personnes ce jour-là, bon nous on est à 70 000 seulement dans le studio aujourd'hui, donc on ne sait pas ce que ça fait pour 80 000. Ça fait quoi d'être face à 80 000 personnes? Ça fait plaisir ou ça fait peur?
C'était génial d'avoir la responsabilité de ce prime, parce que non, ça fait pas peur, c'est de l'adrénaline. Moi j'adore, je veux dire, une fois de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel comme événement.
Bon allez, on retourne à vos meilleurs souvenirs télé avec cette fois-ci un canular.
Oui, c'est un canular que vous aviez monté, Alessandra, avec Nicolas Bedos dans l'émission Un soir à la Tour Eiffel. Vous pouvez nous raconter?
Oui, en fait, l'invité donc ce soir-là était Nicolas Bedos. Et Nicolas m'appelle une semaine avant, il me dit « Tu sais, on devrait faire un truc. » Quand Nicolas Bedos vous dit ça en général, c'est pas un petit truc. Et en fait, il avait imaginé ce canular, donc ce livre où il racontait sa vie privée avec Valérie Trier-Veller. Et c'était la catastrophe. C'était juste après « Merci pour ce moment », en tout cas, toutes les histoires qu'il y avait eu autour de ce livre... Et donc du coup,
on écoute et je vous explique. Allez, écoutons.
En 2 heures, nous passons des insultes aux tendres griffures dans le dos. C'est une gamine injustement vieillie. Bref, en gros, si je traduis, vous entamez une sorte de relation, quoi. Enfin, une relation. Oui. Un peu plus tard, vous dites, au bout de quelques jours à peine, elle me parle de se marier secrètement. Et à partir de là, Nicolas, vous allez nous décrire de façon, je dirais, très littéraire et très précise, une passion complètement dingue. À la fois sexuelle, psychanalytique, une passion qui va durer quand même 17 mois exactement.
Oui, c'est l'expérience sur laquelle je suis parti pour écrire ce livre.
Mais vous comprenez que quand on reçoit ça dans une rédaction, on tombe de sa chaise.
J'imagine.
C'est drôle, sauf que vous ne démentez pas. Et avant la fin de l'émission, c'est une émission de seconde partie de soirée. Donc, beaucoup de gens vont se coucher avec l'idée qu'il y a eu cette liaison.
Eric, il y a eu une dépêche AFP.
Mais oui.
Il y a eu une dépêche. C'est-à-dire que le lendemain matin de ce canular... vraiment, quand je vais vous dire la France, ne pensez pas que j'ai pété un plomb, mais c'était vraiment ça, était partagé. Il y avait 70 papiers sur le sujet. Et j'ai dit à Nicolas, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, effectivement, les gens n'avaient pas vu pour beaucoup la fin de l'émission. Ouais. Et donc, les papiers étaient partis avant. Et c'était on avait lâché une bombe. Le directeur des programmes de France Télé nous a appelés.
Le CSA, avait protesté.
Non, mais attendez, ça a été l'enfer.
Bon, on va refermer cette page Meilleurs souvenirs télé avec ceux dont vous étiez fan.
Oui, les nuls. Merci d'ailleurs. On sait que vous aimez particulièrement la série Régis, c'est un con. Mais vu que ce sont quand même pas des sketchs très radiophoniques, on vous a choisi une fausse pub très chic.
Madame.
Oui.
Que faites-vous dans la vie?
Je m'occupe de paix et de paix, mais ça ne s'écrit pas pareil.
C'est-à-dire?
Oh là là, vous êtes lourd. Je m'occupe de paix dans le monde avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je milite, je m'engage, et puis aussi de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil.
Excusez-moi, je dois être un peu con.
Bon, ok.
Ah d'accord, vous êtes une femme. Barbara Louf, des femmes qu'on n'oublie pas.
Il n'y a que Chantal Lobby à pouvoir faire ça à la télévision.
Mais oui, mais idole.
Vous savez pourquoi c'est génial de parler de télé chez vous? Parce que ça permet aussi de rebondir sur des sujets. Je trouve qu'aujourd'hui, on en fait trop auprès des humoristes. Je trouve que la liberté de ton qu'avaient à l'époque les Nuls et d'autres, je pense aussi à De Coney Garcia, ils s'éclataient vraiment et nous, on se marrait vraiment. Il n'y avait pas de réseaux sociaux justement derrière pour essayer d'alimenter une polémique quelle qu'elle soit. C'était juste le rire à l'état pur, sans se poser de questions.
Et l'air pur, comme ce que l'on vient d'entendre.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussart. On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussart.
Éric, est-ce que l'on peut reparler du jour où vous aviez demandé à Michael Youn de hurler dans son mégaphone comme à la grande époque du Morning Live? Ça, c'était une idée à vous. Oui. J'avais mis 15 jours à m'en remettre.
Elle avait perdu 2/10 d'audition. Preuve qu'il n'avait pas perdu la main, puisque c'était la première fois qu'il reprenait le mégaphone depuis l'arrêt du Morning Live sur M6. Le Morning Live, c'était ses tout débuts à la télé. Il nous en avait parlé, Michael Youn.
Ce générique, c'est bien sûr celui du Morning Live de Michael Youn, notre invité aujourd'hui.
3 juillet 2000, ouais. C'est la première diffusion du Morning Live sur M6. Au départ, c'est juste censé être une émission d'été?
Oui, non, c'était censé être une émission pour réveiller les gens juste pendant l'été. Et on était censé juste pousser les clips, comme on dit. Voilà, c'était une émission avec des clips et occupe-nous, entre. Et moi, je me suis dit, c'est en direct. J'ai quand même un moyen d'expression qui est formidable. Ce serait bête de le gâcher.
Et là où M6 n'a pas vu venir le truc, c'est qu'en fait, c'était une émission qui était d'abord conçue pour la petite sœur d'M6 à l'époque qui s'appelait Fun TV. M6 reprend le signal de Fun TV. Et là, ils se rendent compte que tout va partir en vrille avec vous. Vous êtes en compétition dans un premier temps avec Arnaud Gidouin.
Ouais.
Hein, jusqu'au mois d'octobre, vous alternez la présentation.
C'est fou d'ailleurs comme concept. On va alterner les animateurs. Ouais. C'était pas très sympa ni pour lui ni pour moi.
Nouvelle star des animateurs. En fait.
Voilà, c'était ça, ouais.
Finalement, c'est vous qui êtes validé. Et là, la France est divisée en deux camps avec ce Morning Live. Il y a ceux qui adorent vos délires, Michael, et les autres. D'ailleurs, ceux-ci, vous leur donniez la parole dans l'émission. Ouais.
Bienvenue dans la séquence du Mediateur.com, le seul moment où on peut se défouler contre une émission qu'on n'aime pas, en l'occurrence
la nôtre.
Alors Bernard, je crois que vous n'aimez pas trop notre émission.
Non, pas du tout.
Ah, alors pourquoi on va essayer de
prouver. Carrément débile. Vous êtes vraiment un pauvre con. Je vous vois dans la rue, vous tapez votre tête.
Oh, vous
c'est des menaces.
Il vous tape votre tête,
vous,
monsieur.
Vous me quoi?
Vous pète carrément la tête, le gros pif que vous avez là.
Vous voulez me casser mon gros pif?
Ouais.
J'imagine la tête des patrons d'M6 quand ils tombent là-dessus.
Vous voulez me casser mon gros pif?
Mais je trouve ça génial, c'est formidable. Je suis très très content de réentendre ça. C'est, ouais. Ça me fait extrêmement plaisir de me rendre compte qu'à l'époque, j'en avais rien à faire.
Ouais, beaucoup d'autodérision déjà.
Ouais, j'aurais dû garder un peu ça. Ouais, ça me manque.
Ah, vous pensez que vous en avez un peu perdu?
Un petit peu. Après, on se prend un peu au sérieux. Puis on a envie d'être aimé, on a envie d'être respectable. C'est pas. Mais c'était bien, ça. Voilà.
Tout le monde se réveillait dans la bonne humeur. Alors, sauf peut-être parfois les patrons d'M6 qui étaient en tachycardie en découvrant certaines de vos péripéties à l'antenne. Je pense à ce jour où vous étiez sur la façade.
Ah oui, ça, ils n'avaient pas du tout aimé.
Du bâtiment en face d'M6. Là, Thomas Valentin, qui est le vice-président du directoire d'M6, aussi en charge des programmes, flip, pense que vous allez vous suicider en direct.
Non, c'est pas Thomas Valentin, c'est Frédéric de Vincel qui était le responsable des variétés, je sais même plus comment on dit. Et il s'est dit, parce que j'avais quand même une base un peu folle, le gars était pas tout seul dans sa tête.
Ça,
et il s'est dit, et si jamais son objectif depuis toujours, ça fait un an et demi qu'il fait l'émission, si jamais son objectif c'était de se suicider
le buzz
en
ultime.
Direct,
ouais.
Le con il va le faire. Ouais. Bon, heureusement, j'aimais plus la vie que le buzz.
Reprendre du service le matin, ça vous a jamais tenté, Michael?
Non, c'est trop tôt.
Je veux plus me lever.
Non, les matinales l'après-midi, comment ça se passe?
Non. Je voudrais faire une matinale le soir.
Ouais, c'est bien.
Voilà, une matinale le soir, puisque ça correspond plus à mes horaires aujourd'hui. Non, je ferais bien un evening live plutôt.
Ah, vous êtes allé partout avec ce fameux mégaphone, hein, Michael.
Oui, même en 2001, sur le plateau de la cérémonie qui récompensait le monde de la télé, ça s'appelait les 7 d'or. Ce soir-là, vous débarquez.
Qui depuis ont disparu d'ailleurs.
Disparu,
je ne sais pas si c'est de ma faute,
oui,
mais bon.
C'est peut-être ça. Ce soir-là, vous débarquez à l'improviste sur le plateau en tenue de soirée, c'est-à-dire en string et nœud papillon.
Oui.
Il n'y a qu'un seul vainqueur à cette soirée des 7 d'or, c'est...
Je vois hocher la tête. Vous portez quel regard sur ce Michael Youn de 2001?
Non, mais c'est fou tout ce que j'étais capable de faire. Et aujourd'hui, ça me ferait mal de devoir refaire ça.
Vous n'avez plus l'audace?
Oui. Ben, c'est... Ouais, je crois que j'aurais pu. Que j'aurais pu l'audace. C'est dommage. J'ai envie de faire des bêtises, mais j'ai envie de faire d'autres bêtises. Mais là, je disais quand même, c'est le mec qui défonçait la porte à grands coups de pied. Hein. J'avais vraiment envie qu'on parle de moi.
Hein. Et c'est
ça a marché.
Ça
a marché
bien.
Regardez,
c'est pour ça qu'on vous a remarqué à l'époque. Hein.
Mais ça manque. Ça manque. Pas seulement moi, tous les autres. Ça manque quand même de bêtises. Tout ça est devenu très très poli.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard.
Non, Jade, vous arrêtez ça tout de suite, c'est pas encore maintenant, donc vous descendez de la table, vous enlevez ce chapeau pointu, ridicule d'ailleurs.
Non, moi je l'adore ce chapeau.
Non mais ça c'est ce soir. Pour l'instant, on continue de réécouter le meilleur d'On refait la télé avec le meilleur de Michael Youn.
Allez. C'est le choix de Michael Youn et il va nous dire pourquoi. Alors pour les vacances, vous préférez partir soleil ou la neige? Parce que vous dites détester les sports d'hiver alors que vous auriez été conçu à Luchon.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que je ne veux plus y retourner.
Bah ouais.
Je n'ai pas envie de revivre cette expérience.
C'est dur la vie, Michael.
Non, mais moi je suis méditerranéen, ma mère est italienne, mon père est juif pied-noir. Moi ce que j'aime c'est le soleil, c'est la mer Méditerranée. Voilà. Ouais.
Autre choix. Vous avez commencé à la radio avant de passer à la télé. Si on vous demandait de choisir entre les deux, radio ou télé?
Alors j'aime bien les deux. Mais je trouve que c'est plus difficile de mettre des perruques en radio et de faire rigoler les gens. Ça rend moins bien. Mmh. Donc je dirais la télévision, mais je pense que c'est deux médias qui se complètent très très bien.
Ça vous fait marrer les canulars téléphoniques à la radio ou pas?
Oui.
Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours très drôle.
Oui,
le problème.
Bah on va appeler votre mère et on va lui dire que vous êtes mort.
Non, les problèmes des canulars, c'est que parfois ça sème un peu la zizanie. Comme ce jour où un animateur d'une radio locale avait appelé un monsieur pour lui dire, pour lui lire un poème de sa chair et tendre. Enfin, du moins, c'est ce qu'il croyait.
Allô ?
Allô ?
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je pourrais parler à Pascal, s'il vous plaît ?
Ah, Pascal, il vient de partir, il n'est pas là.
On a un joli poème pour lui, donc c'est dommage, je voulais lui donner ce petit message.
Eh ben, dites-le moi, je lui transmettrai.
Alors, c'est une belle déclaration, écoutez-moi ça. Mon bébé, depuis quelques mois, il est vrai que la passion s'est enflammée. Pour toi, je me laisse consumer. Bon anniversaire, mon amour, je t'aime, Delphine. Voilà.
Parce qu'il y a un petit problème, parce qu'en fait je suis sa femme, donc mon cher Pascal m'écoute à 7h, et ben bébé tes valises se
font. Oups. La boulette, the boulette quoi. Gênant, grand moment.
C'est moche.
Ah c'est moche, bah oui c'est ça le canular téléphonique. Parfois ça peut dégénérer.
Non mais là c'était
oui.
Pas un canular, c'était un cadeau. C'était un cadeau.
Alors plus pertinent, hein, plutôt radin ou généreux?
Plutôt généreux. De toute façon c'est rare les mecs qui viennent en radio dire vous savez je suis un gros radin.
Je suis une pince.
Si on a accordé l'euro.
Il l'assume
pleinement.
Ah non, je suis pas du tout radin, je suis même un peu trop généreux.
Ouais. Alors j'avais entendu parler d'une histoire. Vous allez me dire c'est vrai? Après n'oubliez pas les paroles.
Ah c'est vrai ça.
Vous n'aviez pas emporté assez d'argent, seulement 35 000 euros. Et vous aviez promis de donner les 65 000 euros restants de votre poche à l'association?
J'avais promis à l'association, on reviendra avec les 100 000, on va gagner.
Ouais.
Sauf qu'on s'est arrêté à 35 et dans un coup de folie, parce que vous savez, moi, quand le rouge s'allume, je suis capable de faire et dire n'importe quoi, j'ai dit, c'est pas grave, je complète.
65 000?
Voilà, 65 000 euros. Et donc, il y a Nagui qui m'a regardé, il me fait, t'es sûr? Parce que non, mais on peut encore le couper au montage.
Oui,
je fais, mais
ça.
Non, pas de problème. Et après, je suis allé voir mon fiscaliste, il m'a dit, ouais, enfin, si vous voulez, vous mangerez l'année prochaine, mais bon. Donc, je suis allé au bout, ouais.
C'est vrai.
Donc, je suis fier de l'avoir fait, mais en même temps, je vais pas le refaire.
Incroyable,
ah bah oui.
Quelle générosité. Mais vous savez, Michael, on voit parfois des gens encore plus généreux que vous à la télévision. Des gens généreux, par exemple, avec leur amoureuse, notamment.
Et donc, lui, vous achète une rose?
Voilà, sauf que, en fait, il a voulu être romantique, c'était un peu raté, parce que quand il m'a tendu la rose, il m'a dit, j'ai réussi à la négocier à 1,33€.
Donc, premier rendez-vous sur la place de l'église. Alors, il m'offre un cadeau, je déballe, magnifique, c'est double CD. Il a dit pas qu'il me dit, mais en fait, c'était pour mon ex, mais comme c'est terminé, ben...
Bah oui.
Ça, on adore.
Ça fait plaisir et en plus, ça débarrasse.
Il y a quand même
ça,
des mecs qui sont maladroits.
Ouais, pour le moins.
Bah ouais, tais-toi.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard. On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard.
Alors là, Eric, on va encore se faire des amis avec ce qui arrive maintenant.
Pourquoi?
Vous vous souvenez de ce que Patrick Timsit nous avait raconté au sujet de Bataille et Fontaine, les anciens animateurs stars de TF1?
Ah oui. Il nous avait fait un numéro incroyable en nous racontant pourquoi et surtout comment il avait quitté leur plateau à l'époque du grand Timsit.
Ah oui.
On ne pouvait pas terminer 2017 sans réécouter ça.
Allez.
On a raison ou on est un...
On dit que vous n'avez aucune mémoire. Vrai ou faux?
J'ai une mémoire très très sélective, donc il y a des choses sur lesquelles je n'ai aucune mémoire.
Parce que d'accord. Thierry Lhermitte dit à votre sujet, j'aime l'intelligence brillante de Patrick, son humour dément, c'est une machine à dire des conneries, en revanche, Il n'a pas de mémoire.
C'est peut-être il venait certainement de souffrir la veille où j'avais fait peut-être un trou au milieu du texte.
C'est donc, gênant, théâtre.
Je suis très très proche de Thierry.
Il n'avait pas de mémoire. C'est pour ça que vous oubliez que vous faites régulièrement vos adieux à la scène. Oui. Vous l'aviez déjà fait en 2008 et vous remettez le couvert cette année.
Oui, mais vous avez vu, c'est pas de la promo puisque je ne suis pas sur scène. J'ai le droit de le dire.
Alors vous dites que le prochain spectacle sera le dernier. Dernier tour de piste.
Alors bon, j'ai trouvé le titre. Hein. Adieu peut-être. Merci, c'est sûr.
Alors on dit que vous n'avez jamais participé à Fort Boyard parce que vous êtes phobique de l'eau.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai, pas d'eau
que pour ça. Tout le reste, j'adore. Si j'ai pas pied, vous m'approchez, je risque de me noyer. J'ai failli me noyer, mais d'accord. À 30 mètres du bord. Hein, je rentre en panique. C'est un
truc. En fait, vous êtes un peu comme cette candidate de télé-réalité, Patrick.
Et le tonton, il continue d'avancer. Mais stop, on peut pêcher là. Déjà, on peut pêcher au bord d'une rivière. Pourquoi tu m'amènes au milieu de la mer de je sais pas d'où ? Moi, je suis une terrienne. Je suis pas une mérienne.
Donc vous non plus, vous n'êtes pas un mérien.
Voilà. C'est ce que j'aurais dit. Je me serais exprimé comme ça. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Vraiment, c'est ça. Je ne suis pas mérien.
Patrick Timsit, on dit que vous êtes toujours fâché avec les animateurs Bataille et Fontaine. Ils disent, je les cite, que vous êtes comporté comme un enfoiré sur le tournage d'une de leurs émissions, que vous aviez quitté le plateau sans vraie raison. L'émission s'appelait Y a pas photo. Vous aviez d'ailleurs embarqué le public avec vous.
Ah, ça c'est bon,
ah ouais,
ça.
C'est bon, ça.
Ça c'est bon. De me rappeler ça, c'est très bon parce que, un, je ne suis pas fâché. Deux, je les emmerde. Non, mais c'est fantastique. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi j'étais parti ?
Ben non, ils en parlent
donc
encore
c'est
régulièrement.
Combien
à la
d'années
télé
après, ils disent que je suis un salaud, un enfoiré, que j'ai quitté un plateau parce qu'on était à la 30e question de merde, de niveau. Ouais. J'ai dit, mais vous n'avez pas assez votre quota de merde. C'était, j'y allais pour la première émission, j'y vais, mais en toute confiance. On avait le même producteur qui était devenu leur producteur. Et là, je me rends compte au fur et à mesure de l'émission, je regarde ça dans ma loge, que ça n'a rien à voir. C'est un mec qui a trucidé sa femme et on commence à lui poser des questions. J'en sais rien. Un quota de merde, mais une.
C'était il n'y a pas photo où il y avait eu notamment Pépito qui avait deux zizi.
Ah oui, voilà, c'est ça. Et là, ça commence. Je venais pour un film avec Sophie Marceau. Est-ce qu'elle est bonne ? Et je sais pas quoi. Et après, Paparazzi, est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? C'est pour ça que vous n'aimez pas les photos en famille ? Vous avez peur de quoi ? Qu'on les kidnappe ? J'ai arrêté ces questions à la con, quoi. J'ai dit, mais vous avez pas vu le film ? Non, on n'a pas vu le film. Je dis, mais changez de question. Et là, à un moment, je leur dis, bon, écoutez, J'ai l'impression que moi je m'emmerde hein, sur le plateau. Je vais aller dans le public, c'est peut-être mieux dans le public. Alors je vais dans le public. Alors ils essayent de. Là, Patrick, je dis il y a un Patrick dans le public. Oui, moi je m'appelle Patrick. Ben réponds, tu t'appelles Patrick. Voilà. Moi maintenant je fais partie du public. Donc, et là je leur dis bon, ok, c'est bon, je reviens sur le plateau. On repart autrement avec des questions, mais même sympa. Je suis venu pour rire, pour me détendre ou vous détendre. Mais et là ça repart, mais dans les fiches la même question. Quoi. Et vos enfants, et ceci, et ça. Et là, je les arrête. Et là, je regarde le public. Je dis, bon, ils n'ont pas compris. Alors, est-ce que vous aimez ça ? Et le public fait, non ! Vous vous faites chier ? Ouais ! Est-ce que c'est de la merde ? Ouais !
Vous avez monté le public
mais contre. Mais vraiment, ouais. Je dis, voilà, on s'en va. Ils font, ouais. Et je me suis barré avec le public. J'ai ramené des gens du public dans ma bagnole.
On dit que vous êtes membre d'honneur de l'ordre de la couille de Suisse, sachant que la couille de Suisse est un dessert belge. On avait pu assister à votre sacre d'ailleurs sur la télé belge.
Vous connaissez les couilles de Suisse ?
Les couilles de Suisse ?
Les couilles de Suisse ! C'est une spécialité, nous en mangeons en ce moment. Je vous propose de goûter.
C'est une pâte à pain en réalité, qui est servie avec du beurre, noisette et de la cassonade.
C'est de la couille bien dense.
Alors, monsieur Timsit, on est une confrérie très jeune, et donc on n'a pas encore de membre d'honneur.
Et alors, vous la portez votre couille d'honneur pour les grandes occasions ? Comment
c'est,
ça se passe ?
C'est une grosse, grosse médaille. Hein, attention, hein, ça, je veux dire, vous avez le dos fourbu hein, à la fin de la journée. C'est quand même une décoration pesante. Hein, c'est de la grosse couille de Suisse. Hein. Mais vous savez, là encore, vous voyez, voilà la différence de télé. J'ai adoré faire cette émission.
C'était la télé belge, on le rappelle, RTBF, il me semble, ou RTL TVI.
Ouais, et vous passez quelques heures dans un taxi. Vous discutez avec un mec vraiment bien et on parle de tout et il m'emmène, il m'arrête comme ça dans un bistrot et je vois des gens donc je me dis qu'est-ce que c'est que ce piège à la la con, couille de Suisse et tout ça. Et finalement, vous trouvez des gens qui ont une sensibilité énorme et vous vous rendez compte que la couille de Suisse, son nom est comique, hein, forcément, mais c'était un dessert populaire de gens pauvres qui faisaient ça avec c'est le fameux pain rassis avec un peu de sucre, un peu de lait, beaucoup d'huile, et puis il faut que ça passe. Et donc derrière tout ça, eh bien, il y a une humanité énorme. Et...
C'est un prétexte finalement à l'expression d'une humanité.
Exactement.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussard. On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussard.
Et on continue d'écouter le meilleur de Patrick Timsit dans On refait la télé. La télé qu'il connaît très bien, pour le moins. Vous vous souvenez, Jade, qu'à l'époque, il était d'ailleurs quasiment invité toutes les semaines dans les émissions de Christophe de Chavannes.
Très bon invité, évidemment.
C'était un invité permanent. Je me demande s'il n'y avait pas un contrat, d'ailleurs. C'est ce qu'il nous avait raconté au moment du quiz des génériques télé.
Le jukebox RTL.
Alors le principe du jeu, un peu plus simple, hein, Patrick Timsit, on vous diffuse des génériques et vous devez nous donner le nom des émissions, sachant que tous ces programmes ont un rapport avec vous ou Marie-Francine. Premier générique.
Ça devrait être trop facile pour vous. Hein.
Ah non, c'est impossible.
Vous l'avez fait des dizaines de fois cette émission.
C'est quoi ça? Ouais.
Générique de Ciel mon mardi.
Ah ouais.
Christophe de Chavannes.
Je cherchais des émissions actuelles.
Non,
y a...
Ah non.
Non mais et là je dois rendre hommage. Vous savez quand vous m'avez dit ma première télé, mais celle qui a été incroyable en première télé, c'était Christophe de Chavannes qui m'invitait. J'avais fait, je commençais vraiment, c'était le début, les salles n'étaient pas pleines, voire pas pleines du tout. Et j'avais fait une émission sur Europe 1 avec lui. Il avait une émission dans l'après-midi. On avait tellement flashé qu'il me dit mardi soir t'es sur le plateau et c'est un souvenir extrêmement émouvant, très fort dans une vie, puisque il présente quelqu'un que personne ne connaît et il a plein de compliments et il vous donne tout et vous allez arriver, les gens applaudissent. À un moment je faisais tellement de télé, j'en oubliais même de dire que je jouais au théâtre, donc c'était même plus de la promo quand vous parlez de promo. Et il me dit bah tant pis, c'est pas grave, tu reviens la semaine prochaine, tu vois. Et j'allais vraiment
Christophe de Chavannes.
Moi, je m'étais vanné moi-même. Ouais. J'avais inventé une vanne contre moi qui était profession invitée.
Au grand désespoir d'ailleurs, pour le bonheur des téléspectateurs et de Christophe, mais au grand désespoir en revanche de la direction de TF1.
Qu'est-ce qui est bleu et qui vit au fond de l'eau?
Ah non, bah oui, non.
Non, c'est horrible.
Ah oui, c'est horrible.
On l'a dit pas, alors.
C'est celle-là?
Le petit Grégory dans son sac poubelle? Non, faut pas la dire. Non, c'est dégueulasse.
Je me désolidarise complètement. Hein,
mais vous avez raison, moi aussi. Messieurs. Au revoir.
Voilà. Au revoir.
Super. Bon.
Monsieur Timsit.
Oui.
Vous avez dit que l'important dans le sexe, c'est la taille.
Non, c'était une boutade. Ça m'a fait rire sur le moment, mais enfin, je suis très favorisé de ce côté-là.
C'est
et encore, j'ai maigri de la bite, j'ai perdu 5 kilos, moi.
Ah non. Quel est le mollusque terrestre qui possède côte à côte l'orifice génital, l'anus et la bouche?
Petrucciani.
Non mais vous oseriez encore sortir des horreurs pareilles à la télévision aujourd'hui?
Déjà, Michel Petrucciani, il faut savoir que ça l'a fait rire, qu'on nous avait même rapprochés, puisque sur France Inter, ils avaient dit, tiens, il y avait Michel Petrucciani.
Mais que lui, ça le fasse rire, invité. Mais on ne doute pas que les téléspectateurs avaient été choqués. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sera encore possible ou pas?
Mais déjà, à l'époque, j'avais été interdit. Après le petit Grégory. Interdit. Alors, ce qui est fantastique, c'est pour ça aussi que ça m'amuse. Et moi, j'adore cette phrase qui est la vie est une farce.
Oui.
Ils m'interdisent de direct parce que quand je passe, ça marche. Donc ce qu'ils veulent pas, c'est que je sois en direct. Mais donc Christophe
t'a appelé
en disant avec tes conneries, merde, je me suis fait engueuler, mais il me demande pourquoi je t'invite à chaque fois. Bon alors tu peux plus passer sur TF1 sauf si je t'enregistre avant.
Pour pouvoir couper.
Je peux couper. Ils sont pris à leur propre jeu. Ils peuvent pas non plus passer de moi. C'est extraordinaire. C'est le caillou dans la chaussure.
C'est la mise en abîme de la
télé. C'est le grain de sable. C'est notre rôle, quoi. On est en plein dedans, quoi. Et Petrucciani, donc j'avais été voir son spectacle, il était venu voir le mien, et c'était comme ça des petites battles et tout ça, mais on buvait des coups ensemble dans un hôtel du 8e, puisqu'on était voisins. Et il disait, voilà, et il avait une phrase extrêmement intelligente, mais fantastique, l'analyse. On lui avait fait écouter ce que je disais donc sur mon spectacle, où je le charriais fort, et il avait dit, écoutez, moi ça me fait rire, j'espère qu'il n'a pas que ça dans son spectacle, parce qu'on ne peut pas faire un spectacle sur Michel Petrucciani, et c'est en vannant Michel Petrucciani. Et voilà le talent, voilà l'esprit vif d'un homme, évidemment, que je regrette, que j'écoute régulièrement.
L'intelligence fait la différence. Voilà.
Absolument.
On lance le jukebox avec maintenant une émission de télé dont on parle dans Marie-Francine.
C'est quoi? Secret de l'histoire.
Ah. Yes. En effet.
Générique de Secret d'Histoire. Ah,
heureusement, j'ai vu le film.
On est absolument fan.
Vous l'avez vu quand?
Alors, pourquoi, le papa de Marie-Francine est totalement fan de cette émission. Il veut même qu'elle se marie avec Stéphane Bern dans le film.
Oui, ils disent à Marie-Francine, vous avez des points d'intérêt communs. Il aime la lecture, toi aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui...
Les vieilles choses.
Donc, c'est vrai que... Pourquoi tu vivrais pas avec... Elle lui dit, il a peut-être une chambre d'amis, alors. Et c'est aussi très tendre, et ça nous montre aussi le décalage comme ça qu'on peut avoir en famille. Moi, mon père, il passait sa vie à me dire, mais merde, raconte des blagues. Tu vois bien, il y en a qui gagnent leur vie, ça marche très très fort. Alors, je vais pas citer les noms qu'il me mettait en exemple. Voilà, tu vois, il raconte des blagues, ça marche. Il est millionnaire, lui. Ouais. Toi, t'es là, avec des choses un peu dures, t'as que des bordels et des scandales. Raconte des blagues.
Allez, on va passer au tout dernier générique. Oui. Un petit indice, la maman de Marie-Francine lui dit que cette émission pourrait être une option pour trouver un célibataire. Quel est ce générique?
La ferme.
On n'est pas loin.
Je vais pas sur le film. Hein, parce que
on en a parlé hier.
Ça se passe. Effectivement, la campagne.
À la campagne, c'est...
L'amour est dans le pré.
L'amour
est...
Ah bah c'est ça.
Oui.
Mais je pensais à ça.
Ah mais non, la ferme, c'était une télé-réalité de TF1. Oui, c'est autre chose.
Exact. C'est vrai. Et je vous regarde droit dans les yeux. Et je n'ai jamais eu, ni hier, ni aujourd'hui, un compte en Suisse. Je vous le dis, monsieur Pujadas. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, l'amour est dans le pré. Alors... Écoutez, vous n'allez pas me faire mentir, quand même, bon sang.
Alors, la maman de Marie-Francine lui laisse entendre que ça peut être sa dernière chance. Hein. Ça revient le 19 juin, L'amour est dans le pré sur M6, nouvelle émission qui commencera comme tous les ans par la lecture des lettres que les célibataires ont reçues.
Il y en a une qui m'a fait super flipper. La première phrase, c'est « Mon mari et moi sommes d'accord, vous êtes la personne rêvée ».
Les échangistes.
Il cherchait sur les échangistes, chercher un troisième.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussart. On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Éric Dussart.
Il fait partie des révélations de l'année. On l'adore ici sur RTL. On va maintenant réécouter Jean-Phi,
ah oui.
Jean-Phi Janssen. Et quand Lex Stewart parle de télé, on atteint le 7e ciel.
C'est beau ce que vous dites.
Ben oui, c'est comme
on va
ça.
Peut-être terminer l'émission
un
sur ce jeu de mots. Ouais. Jean-Phi qui faisait déjà de la télé d'ailleurs, avant d'être connu. Vous allez mieux comprendre avec maintenant le zapping de Jean-Phi.
On refait l'invité.
C'est donc le zapping qui refait votre carrière, Jean-Phi. Et votre première apparition télé, c'était en 2014. À l'époque, vous êtes à la recherche d'un appartement à Paris. Et vous décidez donc, tout naturellement, de participer à l'émission de Stéphane Plaza sur M6, Recherche appartement ou maison. Vous n'étiez pas encore humoriste et pourtant... Vous aviez déjà fait un sacré sketch pendant cette émission.
À Paris, Stéphane Plaza va faire la connaissance de Jean-Philippe, un personnage haut en couleur.
Je retrouve pas le carton où j'ai mis mes slips. C'est embêtant, hein. J'adore.
Tu te sens bien?
Ah, ça fait monter ma libido.
Ah, mais je ne savais pas qu'on prenait un appartement aussi.
J'ai un réel désir pour cet appartement.
Ouais. Oui, bah doucement. Les toilettes. Ah oui, mais j'aime bien les commodités en bas, ça m'évite de salir chez moi.
Ah, c'est toujours important. Ouais.
Et alors, malheureusement, ça s'était pas très bien terminé cette histoire, parce que vous aviez trouvé l'appartement de vos rêves, mais pas le financement à l'époque. Hein.
Oui.
Mais d'empêche, vous avez gagné une belle amitié au passage avec Stéphane Plaza.
Oui, je l'ai dit toujours, cette émission, finalement, j'ai pas eu l'appartement, mais j'ai gagné un super copain, en fait. Voilà,
c'est... Qui vous a conseillé lors de vos premières représentations? Il est venu vous voir.
Il a été très bienveillant, il a protégé, Stéphane. Et quand j'ai commencé mes premiers pas, je me souviens, je jouais dans une petite salle parisienne, dans une cave, et il y avait 10 personnes dans la salle, et je jouais sur une palette de camions, et Stéphane Plaza était dans le public.
C'est normal, c'est lui qui louait la cave. C'était ce qu'on appelle un souplex.
Ah, c'est possible.
Mais du coup, ça m'a... Mais c'est vrai que l'appartement, mon Dieu, quelle histoire. Parce que moi, en fait, quand tu fais cette émission, on te demande de faire une simulation avec ta banque pour savoir ce que tu es capable d'emprunter. Donc moi, je vais naturellement à ma banque, je dis, ah, il y avait une émission de Stéphane Plaza. Donc je crois qu'elle s'est un peu emballée aussi, même ma banquière qui était jeune, elle fait, oh, Stéphane Plaza, c'est génial. Et elle me dit, c'est bon, 300 000, c'est bon. Moi, je dis ça. Donc toute la recherche a été orientée sur 300 000.
Ouais.
Sauf que quand j'ai dit, la première à me tacler, c'était ma banque qui a dit, ah non, c'est pas possible. Mais dit le contraire.
Elle avait regardé vos revenus entre temps, elle s'était un peu emballée sur l'émission.
C'est ça, et puis les taux avaient beaucoup remonté, dis donc.
Ouais. Bon, on en vient maintenant à votre premier passage télé en tant que Jean-Phi Janssen, humoriste.
Oui, c'était le 25 décembre dernier, un joli cadeau de Noël, puisque ce jour-là, vous avez eu pour la première fois les honneurs du fameux canapé rouge de Michel Drucker.
J'étais impressionné, oui.
On écoute.
C'est vrai que c'est impressionnant.
Alors maintenant,
La première télé de quelqu'un dont on parle beaucoup, il est devenu un membre à part entière des grosses têtes sur la tête de Laurent Ruquier. Voici Jean-Phi. C'est votre première.
Pour ma première télé, je suis très impressionné, ça me fait très plaisir. Et je pense que ma mère, là, elle est encore plus fière que la lion, de dire ah, regarde le gamin.
Et Jean-Phi, adressez-vous sur la caméra 4 à votre maman.
Maman, je pense que tu dois être fière et heureuse de me voir à la télé sur le canapé rouge. Je suis sûr que tu vas pouvoir crâner demain au village, hein, aller à la boucherie, tout ça.
On est comment, Jean-Phi? Quelques secondes avant que les fameuses portes du plateau de l'émission de Michel Drucker ne s'ouvrent. Vous étiez vraiment
stressé, on a la gorge sèche. En plus, j'avais un problème de voix. Oui, j'étais complètement à fond. Donc, il fallait que je me stressais pour aller chercher toute l'énergie pour sortir un son. Parce que et quand ces portes elles s'ouvrent, on passe et c'est des gros battements de cœur. Et puis, une fois qu'on s'assit sur le canapé, tout va mieux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant. Mais moi, je suis encore très impressionnable. Hein.
Vous parlez de l'émotion que doit avoir votre maman en voyant la télé, mais vous l'avez vécu avec elle parce que cette émission enregistrée.
Oui.
Hein, et donc, vous avez vu l'émission avec votre maman?
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Eh bien, je pouvais pas parler. Et j'ai dit, alors, je commentais, j'ai dit, alors là, elle dit, chut, il y a Jean-Phi à la télé. Ben, je suis là. Elle dit, oui, mais la télé est encore plus beau.
Ah, c'est mignon.
Je vois qu'on s'ennuie pas chez vous. Hein. Bon. On va terminer avec une autre consécration très récente, puisque c'était vendredi dernier sur France 3. Vous avez fait partie des quelques humoristes choisis par Pierre Palmade. Il nous en a parlé quand il est venu. Pour reprendre ses sketchs dans On se refait Palmade.
Parce que le sketch qui suit va être joué par ce nouveau petit génie de l'humour qui est Jean-Phi Janssen. Et il est ce qu'on appelle indiscutable, c'est-à-dire il parle, on rit. Jean-Phi Janssen, je voulais absolument qu'il soit dans l'émission, et quand j'ai pensé à lui, je l'ai vu jouer cette affreuse bonne femme que je jouais dans un de mes premiers spectacles, qui est chez le dentiste, et je vous en dis pas plus.
Excusez-moi, vous avez quelle heure, s'il vous plaît? Vous êtes pas français? Vous, pas français? Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé.
Franchement, Jean-Phi, ça doit faire bizarre, en moins d'un an, de passer de l'anonymat au rang de chouchou de Pierre Palmade, par exemple.
C'est très bizarre, moi. Je réalise pas toujours tout. Hein, et à chaque fois, j'ai l'impression que je vais pas être à la hauteur ou peut-être que je suis un escroc. En fait, je veux tellement pas décevoir ni Laurent Ruquier, ni les gens qui croient en moi, en fait, que je me mets beaucoup de pression. Mais j'étais tellement flatté que quelqu'un comme Pierre Palmade, qui représente énormément symboliquement pour moi, me propose et me mette en scène sur un sketch. J'ai appris énormément de travailler avec Pierre Palmade, ne serait-ce que sur cette collaboration. Et ça m'a beaucoup flatté.
Citez souvent en exemple aussi Muriel Robin.
Oui.
Vous l'avez rencontré?
Non, c'est voilà, je crois que j'ai rencontré tout le monde. Mais pas elle. À chaque fois, c'est pas encore elle.
Vous l'avez pas rencontré, pourquoi? Ça vous stresse de la rencontrer?
Non, parce que l'occasion n'a pas encore été donnée de la rencontrer. Mais je tiens à lui dire, et si elle m'entend, que si je suis là aujourd'hui, si j'ai eu envie de faire rire, je crois que ça a été mon meilleur exemple. Voilà, elle a bercé ma jeunesse et je regardais ses DVD, je n'arrêtais pas de me le refaire. Et j'ai des phrases cultes de Muriel Robin et j'adorais cette nouvelle tonalité. Voilà, c'est quelqu'un de formidable pour moi. C'est la patronne.
C'est un conte de fées pour vous, tout ça. Vous restez spectateur de ce qui vous arrive parfois. Vous dites, je me pince.
Oui, de temps en temps, parce que je suis un peu emporté dans un tourbillon. Je t'avoue que c'est agité. Il se passe beaucoup de choses et ça va vite et il se passe plein de trucs. Mais de temps en temps, je prends juste 10 secondes et je me dis, là, tu sais où t'es quand même. Enfin, t'es en train de jouer un sketch de Pierre Palmade au Théâtre de Paris ou t'es au gros set de Laurent Ruquier ou t'es devant Michel Drucker en un an. Et puis c'était très vite. Donc c'est à la fois excitant, c'est à la fois un peu angoissant, mais c'est que du bonheur. Hein,
Et en même temps, si on faisait un petit méritomètre vis-à-vis du public qui est avec nous dans le studio, c'est mérité, non?
Il est bien, non?
Voilà. Donc soyez rassurés. Pas de syndrome d'imposture à avoir.
Faut laisser aller, hein, Jean-Phi. Hein, tout va bien.
On est comme dans les avions.
On refait l'année télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard.
Eh bien voilà, Jade, c'est la dernière fois qu'on se voyait de l'année.
Eh oui, c'est vrai.
Sauf si vous m'invitez à votre petit réveillon de ce soir.
Mais si vous voulez, mais il faudra mettre votre petite tenue moulante en aluminium.
Pourquoi?
Parce qu'on va danser sur ça.
Ah, pas vrai. Elle recommence. C'est reparti pour un tour, elle fait encore des saltos. Je sais que vous pourriez faire le grand cabaret avec cette chorégraphie.
Oui, je pourrais aller au Patrick.
On vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux réveillon ce soir. Et puis, on vous attend l'année prochaine, naturellement. Il ne faudra pas attendre longtemps pour nous retrouver dès samedi prochain à 13h30 pour refaire la télé pour la première fois de l'année 2018. Amusez-vous bien ce soir. Merci, Jade.
Oui, amusez-vous
mais
bien.
Calmez-vous
surtout.
Un peu quand même, parce que vous allez crever ce soir sinon. Hein.
Mais non, ça va aller.
Bon après-midi sur RTL.